Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, les confidences d'Eddie Mitchell au micro de Stephen Bellery. On ne l'a pas entendu parler depuis la disparition de son ami Johnny Hallyday. Nous entendrons son émotion et Monsieur Eddie nous dévoilera en avant-première une nouvelle collection de duos. L'animateur de TF1, Denis Brognard, s'exprime après l'arrêt brutal du tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta. Isabelle Morini-Bosque l'a rencontré. Nous irons faire un tour à Aix-en-Provence, où les œuvres du peintre français Nicolas de Staël sont exposées. Une visite guidée magnifique, signée Sophie Orange. Et puis musique classique avec Charlotte Latour et le nouvel album de l'Orchestre National d'Île-de-France.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Voilà des mois qu'il travaillait sur ce projet. Eddie Mitchell est de retour au rayon disque avec la même tribu, collection de reprises de ses plus grands succès en duo avec des stars de la chanson. Un premier volume était sorti, vous vous en souvenez certainement, à l'automne. Le second et le coffret double album paraissent demain. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré Eddie, que l'on entend ce matin pour la première fois depuis la disparition de Johnny Hallyday.
Oui, son frère, comme il l'appelait, son ami depuis la fin des années 50, Eddie Mitchell, parrain de Laura Smet, avait gardé le silence depuis le 5 décembre. Je lui ai donc demandé en préambule si près de 6 mois après la mort de Johnny, il commençait à réaliser.
J'ai beaucoup de mal et il m'arrive souvent de rêver de lui et qu'on fasse les cons et qu'on fait les imbéciles ensemble.
Des rêves heureux?
Pas forcément, parce qu'on s'engueulait souvent. Enfin, on s'engueulait, c'était pas méchant. Mais on s'engueulait pour des choses totalement insipides, ridicules. Parce que, je veux dire, un de mes rêves, qui est revenu 2 fois d'ailleurs, c'est nous sommes tous les deux à Saint-Tropez, je suis chez moi, il est chez lui, et il m'appelle en me disant viens passer à la maison ce soir, il y a un bal costumé. Je dis ah bon? Et il arrive, il habille un mousquetaire, il veut que je sois comme lui, je dis non, 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 et puis on s'engueule, et je me réveille. J'ai pas de mauvais souvenirs avec Johnny, donc j'ai pas gardé de cauchemar. Un frère, ça se garde.
Depuis ces derniers mois, vous repensez aux vieilles canailles, notamment à tous ces moments avec lui, musicaux notamment?
Je repense surtout aux afters, c'est-à-dire une certaine soirée à Clermont-Ferrand, où on aimait bien jouer à ça, Johnny et moi. Quelles sont nos plus mauvaises chansons? Et il faut les interpréter a cappella. Et là, ça devient dramatique. Alors moi, c'était une chanson des Chaussettes Noires qui s'appelait « Volage ». Et lui, c'est une chanson qu'il avait enregistrée, qui est une adaptation de Presley à Gadstung, qui s'appelait en français « Je suis mordu ». Et ça a fait vraiment mal.
Tous ces derniers mois, finalement, ils ont été fabuleux. Qu'ils puissent dire au revoir au public, que vous puissiez vivre ensemble cette dernière expérience.
Oui, et d'ailleurs, les Toubib m'ont remercié. Ceci avait donné un beaucoup de fouet, et puis il avait oublié, quoi. C'était bien.
C'est vrai qu'à la fin, il vous parlait que de son album, son nouveau disque.
Oui, et qu'il lui manquait, je crois, 2 ou 3 titres et qu'il était très emmerdé.
Vous avez pu écouter quelques chansons, vous?
Non, j'ai rien entendu.
Si je mange en gourmet dans un dîner de soir, qu'apporte ma tenue, les snobs diront de moi, c'est un rock. Oui, c'est un roller. L'estomac d'un rocker se limite au cheeseburger.
Intellectuels, journalistes étroits s'emparent de ma musique pour écrire de moi, c'est un rock. Hey, c'est un roller. Dans le contexte
actuel, c'est un rocker. Duo Johnny Hallyday, extrait de la même tribu, l'un des derniers enregistrements de Johnny Hallyday.
Un duo qu'on retrouvait dans le premier volume, le second est donc encore plus réussi, m'avez-vous dit, Steven?
Ouais, les plus beaux duos sont vraiment dans ce deuxième opus. Plage 1, première réussite. Eddie invite Calogero.
J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment.
Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton.
Mais bien, cher frère,
mais bien, chère sœur,
reprenez le tout, tout son cœur. Avant de faire vos prières du soir.
1976, pas de Boogie Woogie, l'une des 24 reprises du double album La Même Tribu, un projet que Schmoll a mis des années à accepter.
Ça paraît simple, mais je veux dire, c'est vraiment un cirque énorme à préparer tout cela. Ne serait-ce que d'abord les enregistrements dans les tonalités de chacun, et ça représente beaucoup de temps. En plus, avoir les disponibilités de chaque interprète, ce qui est pas évident. Et je me souviens, quand on m'avait proposé ce projet, je trouvais ça un peu ramenant, parce que c'était un petit peu les invités viennent chanter mes chansons, etc. Mais c'est un respect de l'un pour l'autre, car on fait le même métier, on est sur les routes, et ça crée des liens. Parce que c'est une petite famille, hein, finalement, tout ça. C'était une récréation. Et d'ailleurs, c'est maintenant que je m'aperçois qu'on y a passé un temps fou, mais sur l'instant, vous ne le voyez pas passer.
Des éléphants, tube en 1982, réenregistré avec
Véronique Sanson.
Après Alain Souchon, Julien Clerc ou Jacques Dutronc, qu'Eddy avait invité sur la première galette, on croise dans le volume 2 Pascal Obispo, Laurent Voulzy, William Scheller ou encore Michel Jonas, une aventure collégiale qui a amusé Eddy, notamment pour son côté ludique.
Ah, c'est agréable. On trouve des contre-chants, etc., que j'avais pas exploité et qui étaient faits soit par des chœurs ou bien pas faits du tout. Et c'est intéressant. Il y a aussi penser à l'autre qui va chanter avec vous. Et il faut penser à ses tonalités. Par exemple, Maxime Le Forestier n'a pas le même registre de voix que moi. Donc j'ai dit, mais moi, je te ferai des contre-chants et toi, tu gardes ma tassiture. Il me dit, mais elle est très haute. Enfin, je dis, donc, n'exagérons rien. Donc, j'y ai fait des contre-chants. C'est complètement... bluffant à faire, c'est très drôle et c'est très amusant.
Et du fait de vous être mercié, il n'a plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Oh, 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 oh. Il s'en va de bar en bar, il n'a plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir.
Et ce double album est aussi l'occasion de renouer avec un répertoire hors norme, Steven.
Oui, près de 40 albums depuis 1963. Question à Eddy Mitchell, en se replongeant dans sa discographie, en retravaillant les arrangements, s'est-il laissé surprendre par quelques-uns de ses titres ?
Bah, vous savez, je les redécouvre parce que je les écoute jamais, donc je les redécouvre toujours. C'est des chansons qui font partie de mon patrimoine, si on peut dire, mais c'est le seul fil rouge qu'on peut y trouver parce qu'elles n'ont aucun rapport l'une à l'autre.
Vous êtes conscient d'avoir un patrimoine musical ?
Faut demander ça à la SACEM. Non, je ne sais pas du tout combien de chansons j'ai pu écrire, je ne sais pas non plus combien j'en ai enregistré. Je sais que ça me rapporte, et ça, tant mieux, ça fait marcher la famille, et quand même, je les facture. Voilà. Pour les gens un peu intellectuels, la chanson, c'est un art mineur, ce que je peux comprendre d'ailleurs, mais en même temps, c'est un art qui est fabuleux parce qu'il descend dans la rue, il va chez vous, ce qui n'est pas le cas de tous les arts.
Voilà. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur montent à l'eau, cherchais-tu encore un sport, le Dieu Elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo. Moi, j'étais de trop.
Eddy Mitchell et la merveilleuse Juliette Armanet chantent Couleur Mantello. L'artiste ne veut plus partir en tournée. Il n'a d'ailleurs pas encore de projet de nouvel album, m'a-t-il dit. Je lui ai donc demandé comment il allait.
Je vais avoir 76. Ça fait pas plaisir d'abord, parce que le temps passe, bien sûr. Mais bon, je descends pas trop, donc ça va bien. Mais c'est pas un effet extraordinaire, je veux dire, non. Non, c'est pas pénible. C'est pas pénible si on est comme moi, bon, en forme et qu'on s'occupe pas forcément de sa silhouette ou de sa santé. Mais en même temps, on dit, tiens, merde, j'ai pris quand même un coup de vieux.
Et vous travaillez toujours votre voix ?
J'ai jamais travaillé, donc. Jamais.
Est-ce que vous chantez de manière épatante encore dans cet album ?
Oui, mais ça, c'est un don du ciel. C'est... Merci mes parents, merci le bon Dieu, s'il est libre d'ailleurs, je ne sais pas. Parce que je dis bien, j'ai jamais pris un cours de ma vie, donc. Et j'ai toujours bu que j'avais envie de boire, j'ai toujours fumé, je fume toujours, voilà. Donc j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit.
Laurent Voulzy, la même tribu, le volume 2 sort demain, tout comme le double album Soirée spéciale sur France 3 le 1er juin à 20h55. On le retrouvera à la rentrée au cinéma dans l'adaptation de la BD Les Vieux Fourneaux aux côtés de Pierre Richard.
L'humour et la lucidité, on savait, grâce à vous on a découvert aussi l'extrême sensibilité, cette pudeur qu'il a su dépasser pour parler de son ami Johnny. Merci beaucoup pour cette formidable interview d'Eddy Mitchell. Et alors en effet, quelle voix, c'est d'autant plus que vous l'avez compris, il ne travaille pas ce garçon. Et c'est ça qui est merveilleux, le talent à l'état naturel. On va passer à notre télévision et avec Isabelle Morini-Bosque. On a d'abord des noms, pas d'audience. Très bien. Alors, je sais que vous avez adoré Ici, c'est le moine, le divertissement réussi de Jean-Luc Lemoine ce soir sur C8. Ah, oui. Mais l'actu, c'est évidemment Isabelle Koh-Lanta. Pour deux raisons. A, l'annulation du prochain Koh-Lanta pour cause d'accusation d'agression sexuelle. Et B, la finale demain de la saison en cours. On dit que les candidats, tous bourrillés, ne seront pas là. Il y avait urgence à faire le point avec Denis Brognard, que vous avez vu hier à TF1.
Hein. Urgence, c'est exactement le mot. On entend tout et son contraire. On va donc répondre aux questions précises du grand public. D'abord, la finale directe, pas directe.
Rien n'est en direct. Initialement, alors que je devais être en tournage de Koh-Lanta, on avait décidé de faire la finale en différé sur place. Et on a gardé ce dispositif-là. Compte tenu de l'annulation de Koh-Lanta, on estimait que c'était pas forcément le bon lieu, le bon moment de faire une très grande fête en direct. Donc, je l'ai enregistré et le dépouillement final sera diffusé à la suite de l'épisode vendredi soir.
Sans les candidats.
C'était un peu compliqué de faire revenir tous les candidats là-bas. En revanche, les candidats seront à TF1, participeront à une soirée. Ça permettra aussi au gagnant ou à la gagnante de donner sa première réaction sur MyTF1.
Oui, parce que là aussi, la rumeur, c'était que les candidats ne voulaient pas venir.
Écoutez, je ne suis pas là pour faire l'appel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une immense majorité sera présente. On a envie de se retrouver, d'avoir une soirée avec les candidats de cette saison, les anciens, ce qu'on fait habituellement. Donc, il n'y a rien de sensationnel. Voilà.
Trop tôt pour dire si quelques candidats du tournage annulé seront récupérés sur le Koh-Lanta de printemps, casting en cours. Le public préfère en savoir plus sur la nuit où tout s'est arrêté.
On a vécu un moment difficile. Je suis le premier à avoir dit qu'il était impossible pour moi de continuer le tournage compte tenu de ce qui s'était passé. Et encore une fois, je ne suis ni juge ni flic. Je ne prends position pour personne. Néanmoins, dès l'instant qu'il y a des accusations aussi graves, il était impossible pour moi de continuer. Mon avis a été partagé par la totalité des dirigeants de la société de production et de TF1. On a donc décidé d'arrêter à un moment où on dit toujours qu'on est à la course, à l'audience, au business, au pognon, etc. L'humain a pris le pas. Et je vous le dis, à titre personnel, dans la seconde où j'ai appris ce qui s'était passé en pleine nuit, j'ai dit « je ne continuerai pas à présenter cette saison, ce n'est pas possible ». Maintenant, c'est la justice qui travaille. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu des accusations. À partir de là, je ne peux plus faire mon travail comme je l'entends et comme le programme familial et divertissant l'impose.
Enfin, pourquoi les candidats de Koh-Lanta semblent-ils de plus en plus incontrôlables ? Denis Brognard répond : réseaux sociaux.
Vous alimentez ça, on donne une importance colossale à ce que disent des gens. Quand vous arrivez dans la notoriété, vous êtes encore dans l'idée que ce que vous dites, c'est ce que vous pourriez dire à trois personnes. Mais c'est plus ça, il y a une caisse de résonance. On peut dire ce qu'on veut sur le casting de Koh-Lanta. Je pense que les gens sont ni mieux ni moins bien qu'avant. Simplement, ils sont aujourd'hui complètement blackboulés par les réseaux sociaux. Et je trouve que ça fait un mal de fou. Les rapports sont d'une violence que vous entretenez beaucoup aussi. Je suis au regret de vous le dire parce que c'est votre business. Donc eux, ils se font avoir.
Voilà. Donc la finale demain. Et alors 5 200 000 téléspectateurs plébiscitent Denis Brognard. Les audiences sont en hausse et sa vidéo de la semaine dernière a été vue 1 million de fois et que des avis positifs. Voilà,
on va s'aérer dans un instant en découvrant les peintures de Nicolas de Staël. Ça se passe à Aix-en-Provence. A tout de suite. Merci Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Vous nous faites redécouvrir ce matin un peintre fougueux, tourmenté et prolifique, Nicolas de Staël. En Provence, cette fois-ci, c'est le titre de l'exposition dévoilée à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Une exposition chatoyante, magnifique et émouvante, m'avez-vous dit.
Et je vous souhaite d'être aussi subjugué que moi par ces 71 tableaux, 26 dessins peints par un artiste qui donne tout, talent, émotion, passion, éblouissement. C'est vraiment un choc des couleurs qui vous prend aux tripes, tellement il y a de tension, d'énergie et de force dans ces tableaux. Des tableaux peints entre juillet 53 et octobre 54, c'est précis, période pendant laquelle Nicolas de Staël découvre l'Agne en Provence, la Sicile, en Italie, et Ménère dans le Luberon. Marié, il tombe amoureux d'une femme qui n'est pas libre. Une relation passionnelle impossible qui va l'inspirer, mais qui va aussi finir par le broyer, puisque Nicolas de Staël se suicide le 16 mars 1955.
Et ce qui est particulièrement émouvant, c'est que plusieurs de ses enfants sont encore en vie pour parler de lui.
Et j'ai eu de la chance de rencontrer son dernier fils, Gustave de Staël, lui-même peintre. Et on peut l'écouter, je vous assure, pendant des heures. C'est lui qui va nous expliquer pourquoi les tableaux de cette période provençale, l'apothéose de sa carrière, sont aussi puissamment colorés. Nicolas de Staël s'installe dans le sud, sur les conseils du poète René Char, après des années dans un atelier très sombre de Paris.
La Provence, pour lui, ça a été un grand changement de lumière. Tout d'un coup, l'air vif du dehors, recomposer toutes ses sensations, tout son amour qu'il avait pour cette lumière du sud. Il nous a dit, exprimé ce qu'était vraiment le sud, l'extrême embrasement des choses, sur un flamboiement de la couleur chez lui.
Regardez ces paysages, le rouge, le jaune, le bleu, d'une intensité absolument inouïe. inouïe, paysage de Sicile peint en Provence. Ils sont éblouissants. Est-ce que vous avez remarqué, Yves, les ciels ne sont pas bleus,
non, mais ils sont roses, orange, rouge,
vert. Une inversion des couleurs expliquée par Gustave de Stahl.
Il avait envie de dérégler les choses, de montrer que les choses étaient faites différemment. Et du coup, c'est pour ça qu'il se permet finalement de faire un ciel rouge ou un ciel vert. C'est une sorte de grand cataclysme. Il voulait montrer que la peinture pouvait dire autre chose.
Et voilà ce que Nicolas de Stahl lui-même écrivait. On ne peint jamais ce qu'on croit voir ou voit. On peint à 1000 vibrations le coup reçu. Question Yves, regardez cet autre tableau. Que voyez-vous ?
Moi, je vois un homme assis, adossé à un arbre ou à un rocher.
On va écouter Sophie Grépinet, passionnée, passionnante, conférencière à l'hôtel de Caumont. Elle va vous donner quelques clés de compréhension.
On peut imaginer qu'il y a une femme. Certains historiens de l'art y voient un deuxième personnage. Alors, ce n'est pas évident, mais on pourrait imaginer en effet que sur le côté droit, on voit une chevelure. Et c'est la période où Nicolas de Stahl pense beaucoup à sa maîtresse. Il pense toujours à ces deux femmes. C'est flou, finalement. C'est très mystérieux. On se pose beaucoup de questions, comme lui devait s'en poser beaucoup aussi quand il réalisait ses œuvres.
Et moi, j'ai beaucoup de mal à voir ce deuxième personnage, cette chevelure qu'on peut distinguer. On va s'approcher encore un peu plus près d'autres tableaux.
Oui. Dans la première salle, on voit ce paysage où la matière est très épaisse. Il utilise la truelle, comme si c'était un maçon. On voit qu'il y a au moins un centimètre d'épaisseur de peinture. Et puis, au fur et à mesure, déjà, il va utiliser le pinceau. La peinture devient beaucoup plus fluide, contrairement à d'autres tableaux où il y a beaucoup de matière.
Et figurez-vous qu'en 15 mois, en Provence, de Stahl a peint 254 tableaux, 203 dessins. Et au total, pendant toute sa vie, qui s'est arrêté tôt, hein, puisqu'il est mort à 41 ans, il a réalisé 1100 œuvre, comme s'il ne fallait pas perdre de temps. Une incroyable fougue créatrice. Gustave de Stahl a peu connu son père, mais sa mère et des marchands d'art ont vu travailler l'artiste.
La toile était vierge, grande. Il mettait directement les couleurs sans un temps de préparation. Il y allait carrément d'un élan franc et total. Il établissait très vite tous les plans. Il voyait un paysage et il voulait que sa main le restitue à la vitesse qu'il avait vue. On sait, parce qu'il l'a dit dans les écrits, qu'il n'avait pas envie de vivre longtemps.
Et de Stahl travaillait tellement vite qu'il envoyait parfois des tableaux à peine secs aux États-Unis dans des galeries qui attendaient son travail. Et sur les 1100 tableaux, 25% seulement ont déjà été exposé dans des musées. Et l'un, Nice, que l'on voit juste à la fin de l'expo, a même été choisi par Barack Obama pour être accroché sur les murs du bureau ovale de la Maison Blanche. Rendez-vous à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence pour une expo à ne rater sous aucun prétexte.
Merci pour ce moment lumineux en compagnie de Nicolas de Stahl, Sophie Orange. Donnez-nous l'heure.
Merci mon bon ami. RTL, laissez-vous tenter 9h20.
La France est un beau pays où les orchestres régionaux peuvent aussi être nationaux. On va y revenir dans un instant avec Charlotte Latour.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Le plus européen des chefs d'orchestre au micro d'RTL ce matin. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allée à Alfortville, près de Paris, mais oui, rencontrer Enrique Mazzola. Cela fait 6 ans qu'il est le chef de l'Orchestre National d'Île-de-France.
Également appelé l'ONDIF. Enrique Mazzola, ses petites lunettes rouges et les 95 musiciens de l'orchestre travaillent et répètent sur place. La banlieue, la région parisienne, c'est le truc de l'orchestre. Il se balade de ville en ville. Pour preuve, il donne ce soir le Requiem de Verdi à Boulogne-Billancourt, après-demain à Ablon-sur-Seine. Et dimanche à Versailles. Dies irae, le jour de colère, on est dans les flammes de l'enfer là avec Verdi. Mais ce requiem a aussi des accents d'opéra et le compositeur italien l'a surtout conçu comme un hymne à l'Italie unifiée lorsqu'il l'écrit en 1874. Un pays sanctifié quand le chœur chante Sanctus, également hommage à ceux qui sont tombés pour leur pays. Cette messe de requiem est d'une puissance extraordinaire et pour avoir vu les répétitions, je peux vous dire qu'Enrique Mazzola dirigera avec beaucoup de vigueur et d'énergie ce monument de la musique.
J'ouvre cette partition avec la conscience de chanter pour les morts. Donc je suis vivant. C'est notre chant à nous pour se souvenir.
Alors Parallèlement à ses concerts du Requiem de Verdi, toujours sobre, paraît demain un nouveau CD du chef et de son orchestre. L'album célèbre les années 1910-1930 en France.
On y entend une rareté, une œuvre jamais enregistrée et tombée dans l'oubli, La Bien-Aimée de Darius Milhaud. Un ballet en un acte pour pianola, piano mécanique et orchestre, écrit en 1928. Si vous ne savez pas ce qu'est un pianola, Enrique Mazzola vous explique.
Il y a très peu de répertoire pour cet instrument. La pianola, c'est une sorte de piano qui joue de façon mécanique à travers un rouleau en papier, avec beaucoup de trous. À chaque trou correspond une note de papier. Donc on fait bouger le rouleau et le rouleau fait jouer l'instrument. La Bien-Aimée de Milhaud est basée sur des pièces pour piano de Liszt et de Schubert. Donc c'est vraiment des transcriptions qui font aussi des feux d'artifice de cet ouvrage, mais des transcriptions pour orchestre et pianola. Donc à la fin, ce qu'on écoute, c'est de Liszt, mais transformé, complètement transformé par Milhaud.
En première mondiale est une belle découverte malgré un lyrisme un peu exacerbé. Elle retrouve vie grâce à ce chef charismatique et comme l'œuvre est courte, un peu plus d'une demi-heure, une autre pièce figure sur l'album, musique de ballet également, histoire de faire honneur à l'âge d'or de la danse à Paris au début du XXe siècle. Il s'agit de L'Oiseau de Feu, composé en 1910 par Stravinsky.
Comme je parle français, donc vous avez compris que je ne suis pas d'origine française, mais je suis très fier de vous dire que je suis devenu un citoyen français depuis février. Mais naturellement, je suis italienne. Je reste avec deux passeports, donc le passeport italien, le passeport français. En plus, si on ajoute que de naissance, je suis né espagnol ou mieux catalan et que j'ai vécu aussi longtemps à Berlin, bon, tout ça fait de moi un vrai citoyen européen.
Enrique Mazzola, donc, qui incarne à merveille le citoyen européen, une personnalité dynamique, impliquée dans la vie culturelle locale et avant tout motivée pour démocratiser la musique, qu'elle soit sacrée, contemporaine ou d'opéra. Enrique Mazzola donne, avec l'Orchestre National d'Île-de-France, une centaine de concerts par an de Provins à Créteil, en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Pas étonnant que l'ONDIF soit surnommé l'Orchestre RER.
Excellent moment, on a été ravis de rencontrer Enrique Mazzola. On se retrouve dans un instant, nous, pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet comme chaque jour. Ah oui. Ah, le Verdi, il y va, hein. Ouh là là. Comme Julien Courbet avec toute son équipe.
Ah, les mêmes. Et ils ont la même tête dans mon équipe.
Ah oui.
Il y a Chewbacca des... Le Chewbacca des PV qui est là, il va vous parler d'ailleurs.
Oui. Jean
Reverdy. Bonjour monsieur voilà. Calvi, comment allez-vous?
Maître Chewbacca, comment allez-vous?
Je suis ton flash.
Ça c'est ce qu'il dit.
Oui, bah ça
bon, tout va bien?
Bah oui.
Vous m'avez l'air très en forme en ce moment, c'est bien. Hein.
Vous savez, c'est l'approche des vacances,
peut-être.
L'été, le printemps. Le plaisir de vous retrouver, voilà. Bon, tous ces merci, PV Maurice. Qui pleuvent, c'est merveilleux.
Passez une bonne matinée.
Bonne émission, vous écoutez avec plaisir.